Très bon réveil, voici le journal de Clara Lecoq-Réal sur France Culture. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La plateforme Parcoursup, revue et corrigée après les loupés de l'an dernier, ouvre aujourd'hui pour les futurs bacheliers. Un calendrier raccourci, plus de choix dans les formations, nous ferons le point dans un instant.
Et nous passerons en revue les arguments des travailleurs du sexe qui saisissent aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Ils estiment que la pénalisation de leurs clients est contraire aux droits constitutionnels.
Dans ce journal également, zoom sur le traité franco-allemand que vont signer ce matin Emmanuel Macron et Angela Merkel. Il viendra compléter le traité de l'Elysée de 63.
Le Forum économique mondial s'ouvre à Davos, en Suisse. Une jeune Suédoise y participera. Elle tentera de faire entendre la voix des écologistes, vous le comprendrez.
Et puis nous entendrons Marcel Azzola nous raconter comment a été enregistrée la chanson Vesoul de Jacques Brel. Chauffe Marcel, chauffe. Marcel Azzola est mort hier, il avait 91 ans. La question de Frédéric Seyss dans son billet politique après ce journal. Pourquoi de plus en plus de voix plaident pour le retour du septennat? L'heure du choix donc pour les futurs bacheliers et les étudiants en réorientation. À partir de 10h tout à l'heure, la plateforme d'orientation post-baccalauréat sera accessible. Il s'agit pour le gouvernement d'éviter les couacs de l'an passé, les temps d'attente interminables, les élèves sans affectation et donc les critiques et la mobilisation. Voici venu Parcoursup version 2. Il y a, Victoria Coussa, quelques évolutions, quelques améliorations pourrait-on dire.
Principal changement, un calendrier raccourci. Les lycéens seront fixés sur leur admission dès juillet et non plus début septembre. Cela évitera à certains de stresser tout l'été. Autre modification, dès les premières réponses des établissements à la mi-mai, les jeunes sur liste d'attente pourront connaître leur position. Jérôme Théillard est chef du projet Parcoursup.
Soit on leur donne une information qui les rassure parce qu'ils vont voir qu'ils vont recevoir une proposition. Peut-être ne l'ont-ils pas eu le 15 mai, mais ils vont l'avoir parce que le point de référence, qui est celui de l'année 2018, leur garantit qu'ils auront une proposition. Et puis il y en a d'autres, ils verront que, compte tenu de leur rang de classement, sur un de leurs vœux, ça ne sert à rien de le conserver.
Ces candidats avec des vœux en attente ont le droit à un nouvel outil, le répondeur automatique. S'ils le souhaitent, ils peuvent sélectionner leur vœu préféré. Si l'un d'eux se débloque, il sera automatiquement validé par le répondeur. Pas besoin donc de se connecter à la plateforme tous les jours pendant les vacances. Il y a aussi plus de choix. Cette année, plus de 14 000 formations. Et c'est une première, on y retrouve les écoles de soins infirmiers ou encore de travail social. Des changements salués par Orlane François, présidente de la FAGE, premier syndicat étudiant, mais d'après elle, ce n'est pas assez.
Le nombre de places va être encore largement insuffisant par rapport aux besoins des étudiants. Et on le sait, quand le nombre de places est insuffisant, une sélection se met en place dans les filières universitaires y compris. Et malheureusement, l'investissement financier qui est fait par les pas derrière n'est largement pas suffisant pour accueillir tout le monde.
De son côté, le ministère a su réfléchir à créer ces nouvelles places dans les filières en tension. Mais cette année encore, certains craignent de subir un embouteillage aux portes des formations.
Un engorgement donc pour quelques filières ou pour certaines facultés tout simplement. C'était une autre critique l'année dernière. Les élèves de banlieue parisienne, rejetés par les universités de la capitale au profit de bacheliers parisiens et pas forcément meilleurs. Pour les licences, désormais, il n'y aura donc plus de secteur entre les académies de Paris, Créteil et Versailles. Un premier pas salué par le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, mais il rappelle que les universités ont toujours le dernier mot.
Si dans les critères de sélection locaux utilisés par ces établissements, il y a le métier d'origine et que c'est un discriminant en fonction des préjugés, en fonction de l'évaluation de telle ou telle situation, en quoi ça favorisera le choix des élèves. Moi, je demande une chose simple, c'est que les élèves de Seine-Saint-Denis, à parcours et niveau scolaire, à dossier scolaire équivalent, ils aient les mêmes chances d'aller dans l'établissement de leur choix. Si on veut rétablir de la confiance, si on veut lutter contre ce sentiment d'injustice qu'a développé Parcoursup chez les lycéens des quartiers populaires, il faut établir de la transparence. C'est exactement ce que dit Jacques Toubon.
Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui a effectivement recommandé hier une plus grande transparence et la garantie d'une mixité sociale dans l'enseignement supérieur. Pour répondre à ce scepticisme, à cette demande de transparence, la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, sera l'invitée du journal de midi et demi sur France Culture. Exiger que le client d'une prostituée paye une amende de 1500 euros, est-ce contraire au droit constitutionnel? Cela va-t-il à l'encontre de la liberté d'entreprendre et l'autonomie personnelle? Le Conseil constitutionnel se penche ce mardi sur cette épineuse question. Il a été saisi par une trentaine de travailleurs et travailleuses du sexe, ainsi qu'une douzaine d'associations. Tous seront représentés par Maître Spinozzi. Et il a quelques arguments à Rachlegel.
La pénalisation des clients heurterait de plein fouet plusieurs libertés constitutionnelles, à commencer par l'autonomie personnelle et la liberté sexuelle qui n'a jamais été reconnue par le Conseil constitutionnel mais qui découle notamment de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, tout comme par exemple la liberté de se marier. Maître Spinozzi devrait aussi rappeler que la vente et l'achat d'actes sexuels entre adultes consentants n'est pas en soi répréhensible. D'ailleurs, les prostituées payent des impôts. Ainsi, pénaliser leurs clients reviendrait à les empêcher d'exercer leur métier et contreviendrait à leur liberté d'entreprendre au sens économique du terme. Enfin, les requérants affirment aussi qu'infliger une amende à leurs clients est disproportionné et contre-productif. La loi de 2016 a pour objectif en effet de lutter contre le proxénétisme et contre le trafic des êtres humains. Or, verbaliser les clients fragilise les personnes prostituées. Elles doivent se cacher, voient leurs revenus baisser, acceptent donc parfois des pratiques qui les mettent en danger et subissent plus de violences. Les proxénètes peuvent tirer parti de cette vulnérabilité. La loi méconnaît donc le principe de la nécessité et de la proportionnalité des peines. Voilà en substance ce que diront les requérants ce matin. En face, les associations abolitionnistes et féministes viennent défendre le texte du gouvernement.
Le Conseil constitutionnel rendra ensuite sa décision dans 10 jours. D'ici là, vous pourrez retrouver un article avec des témoignages sur franceculture.fr. 50 millions d'euros, voici l'amende infligée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés à Google. La CNIL estime que le géant américain n'est pas assez transparent quant au traitement des données de ses utilisateurs. Il s'agit de la plus forte amende imposée à ce jour à une entreprise depuis la mise en application du RGPD l'année dernière, le règlement général sur la protection des données. Il n'a rien dit ou presque. Alexandre Benalla s'est défendu hier devant la commission d'enquête du Sénat, défendu d'avoir menti au sujet de ses passeports diplomatiques. Ils lui ont été restitués, dit-il, début octobre, soit bien après son licenciement fin juillet.
Et pendant que le monde politique s'emploie à démêler le vrai du faux dans l'affaire Benalla, Emmanuel Macron arrive à Aix-la-Chapelle, à la frontière germano-belge.
Oui, il doit y retrouver la chancelière allemande Angela Merkel afin de signer un nouveau traité bilatéral franco-allemand. Un texte qui vient compléter celui signé en 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer pour sceller la réconciliation entre les deux pays à l'époque. Un texte, Bertrand Galichet, qui ambitionne d'accélérer la convergence.
Le traité d'Aix-la-Chapelle, présenté comme un renforcement de l'amitié franco-allemande, entend aussi favoriser l'unité et la cohésion de l'Europe. Principale avancée concrète, la coopération transfrontalière avec des simplifications administratives pour les résidents des régions concernées et le développement du bilinguisme. Les deux pays veulent aussi transposer de manière concertée les directives européennes. Dans le domaine militaire, le traité insiste sur une clause de défense mutuelle qui existait déjà à travers l'OTAN. En politique étrangère, le nouveau traité prévoit que l'admission de l'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité sera une priorité de la diplomatie franco-allemande. Les deux pays entendent travailler à une plus grande convergence économique, sociale et fiscale. Ils veulent instituer une zone économique dotée des mêmes règles. Parallèlement, une assemblée parlementaire commune de 50 députés français et d'autant d'élus au Bundestag siégera au moins 2 fois par an, alternativement à Paris et à Berlin.
La signature pour ce nouveau traité aura lieu en milieu de matinée tout à l'heure. Comment sera-t-elle reçue à Bruxelles? Theresa May a promis aux députés britanniques d'aller renégocier le projet de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, renégocier son texte concernant notamment la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, comme un air de déjà-vu. Emmanuel Macron est à Aix-la-Chapelle, donc nous l'avons compris, Theresa May occupée à sauver le Brexit à Londres. Donald Trump sera lui aujourd'hui absent absorbé par le budget américain qui paralyse depuis un mois une partie de l'administration. Il propose le financement du mur à la frontière mexicaine contre un sursis accordé à 1 million d'immigrés dans le pays. Français, britanniques, allemands, aucun d'entre eux ne sera donc aujourd'hui à Davos en Suisse où s'ouvre le Forum économique mondial. C'est le président brésilien populiste Jair Bolsonaro qui prononcera le discours d'inauguration. Et au total, à Davos, 3000 participants tout de même sont attendus, des chefs d'entreprise, des responsables d'ONG pour beaucoup. Au milieu de ce gratin sera présente également Greta Thunberg, 16 ans, suédoise, figure de la jeunesse qui lutte pour le climat en ce moment. Elle prendra l'économie au service de l'écologie. Notre correspondant Frédéric Faux l'a rencontrée avant son départ pour la Suisse.
Mon nom est Greta Thunberg, j'ai 16 ans et aujourd'hui je fais une grève pour le climat à la porte du Parlement suédois. Je ferai ça tous les vendredis jusqu'à ce que la Suède respecte l'accord de Paris sur le climat.
Greta Thunberg ne doute de rien et elle a raison. Au mois d'août, quand cette petite blonde coiffée de donuts au regard buté a commencé à manifester seule avec une pancarte en carton, pas grand monde ne la prenait au sérieux. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de jeunes à travers l'Europe et jusqu'en Australie suivent son exemple et font la grève de l'école tous les vendredis pour le climat. Greta Thunberg avait déjà frappé l'opinion par son discours à la COP24 de Katowice, en Pologne. Et elle compte bien faire de même à Davos, où elle espère notamment toucher les 60 chefs d'État qui seront présents.
Je pense qu'en étant là-bas et en faisant des discours, je peux attirer l'attention sur la crise climatique, qu'ils oublient leur intérêt personnel pour s'intéresser au climat.
La jeune activiste participera à l'Arctic Base Camp, un événement organisé par des scientifiques inquiets des conséquences de la fonte de la banquise. Mais elle a décidé de s'y rendre en ayant le moins d'impact possible, comme l'explique son père qui va l'accompagner.
À Davos, on y va en train. On va partir de Stockholm tôt le mardi matin. L'après-midi, on est à Hambourg. Et là, on prend le train de nuit pour Zurich.
Un itinéraire qu'elle suivra de nouveau dans l'autre sens pour retourner chez elle en train.
Et voilà qui pourrait interpeller Greta Thunberg dans le Haut-Rhin, au nord de Mulhouse. Des déchets industriels dangereux resteront enfouis sur le site de Stockamine. L'État ne va finalement pas les déterrer. Il y a trop de risques et trop de surcoûts, dit le ministère de l'Écologie. Plus de 19,5 millions d'euros. Le loto du patrimoine lancé à la rentrée dernière a, semble-t-il, convaincu. La Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale va l'évaluer aujourd'hui. Et cela va permettre, on le sait déjà, de restaurer 231 monuments en France, notamment la basilique Notre-Dame de Brébières dans la Somme à Albert. Elle va bénéficier de 48 000 euros. C'est une visite guidée avec Lise Verbeck.
La basilique d'Albert interpelle par son originalité en Picardie, avec son style néo-byzantin et mauresque. Son architecte aimait dire qu'elle était la synthèse de tout ce qu'il avait vu lors de ses voyages au Proche-Orient, avec notamment ce clocher qui ressemble à un minaret surmonté d'un dôme où se trouve la statue de la Vierge dorée. La façade en briques et en pierre blanche a été rénovée il y a peu, mais à l'intérieur, les peintures murales d'art déco sont fatiguées, selon l'abbé Joël Dulin.
Pendant peut-être une vingtaine d'années, il a plu dans la basilique. Donc les murs sont très très abîmés, les peintures ont été très abîmées, les toiles marouflées ont été très abîmées, certaines ont même disparu parce qu'elles ont pourri, et maintenant il faut restaurer l'ensemble.
Alors ici nous sommes devant la chapelle Saint-Michel, ce que l'on appelle également les fonts baptismaux.
Laurence Catherine, adjointe chargée de la culture et du patrimoine historique à la mairie d'Albert.
Depuis le 14 janvier, il y a deux restaurateurs qui viennent pour justement faire un diagnostic. Ils ont installé des échafaudages et ils vont regarder quelles sont les meilleures techniques qui pourront être faites pour que justement l'architecte puisse trouver l'entreprise qui pourrait répondre justement aux travaux.
Des travaux qui vont coûter 180 000 euros et qui pourront donc démarrer très vite grâce à la subvention de la Fondation du patrimoine de 48 000 euros.
Et il a largement contribué au patrimoine musical français. Marcel Azzola est décédé hier, virtuose de l'accordéon. Il s'est fait connaître du grand public grâce au film de Jacques Tati et notamment avec la bande-son de Mon Oncle. Grâce aussi à ses collaborations avec Édith Piaf, Barbara Gilbert-Bécaud, Juliette Gréco. Citons également la chanson Vesoul de Jacques Brel. Jacques Brel survolté par l'accordéoniste lors de l'enregistrement.
T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et dans mon valet, rien de ce que je sais d'Hortense. J'irai plus dans le Cantal et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe, je n'irai pas plus loin.
Et ce chauffe Marcel, finalement c'était déjà dans le langage des jazzmen. Donc je veux dire, moi j'ai pas été étonné de ce chauffe Marcel, mais finalement, je sais pas si vous en rendez compte, mais on me dit ça encore maintenant, chauffe Marcel, alors que ça fait 30 ans.
Mais je te préviens, chauffe Marcel, le voyage est fini, d'ailleurs j'ai horreur de tous les plans.
Il dit non, 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 Marcel, vas-y, fais-moi des choses, si, si, ça me permet d'exciter mon débit. Et c'est vrai que son débit est impressionnant à ce moment-là et que ça va rejoindre un petit peu. J'ai la hâte qu'il se dilate. Je le remercie parce que partant de là, j'ai l'impression, ou c'est même peut-être pas qu'une impression, que c'est comme ça qu'on s'est dit, ah bah, le petit Azola, il existe.
J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérien, t'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance, on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Par hasard, t'as plus aimé Paris, on a quitté Paris.
Voilà, c'était Jacques Brel qui chantait, accompagné de l'accordéoniste Marcel Azola. Marcel Azola, décédé hier, il avait 91 ans. La neige va balayer un grand quart nord-ouest de la France aujourd'hui. Il est conseillé de limiter ses déplacements. Ce matin d'ailleurs, des perturbations sont déjà observées en Normandie et dans le Pas-de-Calais. 24 départements sont placés en vigilance orange. Cela va des Hauts-de-France au Grand Est en passant par l'Île-de-France. Il va pleuvoir par ailleurs sur le sud-ouest. Il va y avoir un grand soleil sur le sud-est aujourd'hui. Comptez moins 2 à Strasbourg, 0 à Paris et Lyon, 6 degrés à Brest, 7 à Perpignan.
Merci Clara Lecoq-Réal.